Bonjour à tous, bienvenue à votre Cinébrunch. Mon nom est Jim Boulay, en compagnie d'André-Jean Rouleau et de Mélina Lopez-Nadeau. Bonjour, chers collègues.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Et cette semaine, on va continuer. André-Jean, tu vas poursuivre ton bloc sur le cinéma américain.
Oui, ça va être c'est assez chargé ce qu'on a comme troisième bloc.
Bon, ben très intéressant. Et ensuite, évidemment, on va faire des critiques de différents films, notamment le film Capharnaüm, Arctic et Paddleton. Et Mélina va nous parler un peu des Oscars quand même, parce que la cérémonie s'est déroulée cette semaine.
Et voilà.
Oui.
Donc, toutes ces bonnes choses à venir dans l'émission. Mais en attendant, quelques nouvelles d'ailleurs. Commençons par Mélina.
Oui, en fait, comme tu l'as dit, on va en reparler plus tard. Mais j'ai écouté les Oscars dimanche dernier. Et comme la plupart des spectateurs, j'ai beaucoup aimé le moment où Bradley Cooper et Lady Gaga ont interprété la chanson « Shallow » de leur film « A Star is Born ». Leur complicité lors de la performance a fait couler beaucoup d'encre, en fait. Et plusieurs se demandent si une véritable histoire d'amour ne se cacherait pas derrière tout ce magnétisme et cette tension entre les deux. Ah oui, c'est...
Il y a du patinage dans l'air.
Il y a extrêmement beaucoup de patinage. On sait que Bradley Cooper est en couple. D'ailleurs, sa compagne était assise au premier rang durant la performance. Mais,
c'est malaisant.
C'est un peu malaisant. Mais c'est ce que certaines personnes disent, en fait. C'est vraiment intéressant. Si vous voulez patiner un peu, regardez ça. On sait que Lady Gaga a rompu ses fiançailles récemment. Pour l'instant, tout le monde, eux ne disent qu'ils ne sont qu'amis, mais tous les gens autour, ah oui, ça, gros soupçon d'autres choses. Donc, il y avait vraiment une tension magnétique entre les deux. Donc, c'est
Est-ce que c'est pour l'argent ou la vérité? On saura sans doute ça dans la prochaine revue à Potin.
Je pense que... Ouais, non, c'est pas pour l'argent.
C'était une intensité... N'oublie pas que c'est des acteurs. Ça, c'est bien. C'est payant, ça, faire des petites affaires comme ça. Ça fait beaucoup d'entrevues payantes dans les magazines.
Vous avez bien raison, chers collègues.
Oui. Bref, merci Mélina. André-Jean.
Oui, moi, écoutez, j'ai le goût aujourd'hui de faire différent. Je vais vous parler d'horreur. Écoutez, il y a un film qui a attiré mon attention, qui est apparemment sorti au Canada depuis le 8 février. Mais bon, pour l'instant, ça semble être le calme plat, alors qu'on en dit bien des bonnes choses. C'est-à-dire que différentes stars montantes de l'horreur, dont Nicolas McCarthy dans Le Pacte, ou certains se rappelleront aussi de Jeff Buller dans Pet Sematary, ou du producteur encore de Exorcism of Emily Rose, pardon, qui se sont toutes mis l'épaule à la roue pour nous concocter une des plus effrayantes construction ou production de l'année, finalement. Amy Taylor Schilling, dans le fameux Prodige, incarne une mère, donc, qui a un fils qui a un comportement inquiétant. On parle de Miles. Et qui indique ni plus ni moins qu'une force perverse peut-être surnaturelle l'a rattrapée. Donc, encore là, on tombe dans l'horreur qui est le plus accessible aujourd'hui, finalement. On n'est plus dans les maisons
surnaturel.
On est plus... Oui, exactement, le paranormal. Ouais. Donc, craignant pour la sécurité de sa famille, Sarah doit choisir entre son instinct maternel d'aimer et de protéger son fils et un besoin désespéré d'enquêter sur ce qui cause son sombre malheur. Elle est forcée à chercher des réponses dans le passé, entraînant le public dans une course folle où la distinction entre la perception et la réalité devient effroyablement floue. Ma foi... Une brochette assez impressionnante, Taylor Schilling, qu'on a connu dans Orange is the New Black, excusez-moi pour les anglicismes là actuellement, exactement. Jackson Robert Scott, qu'on a connu dans It, le nouveau remake. Peter Monet, Cole Ford, des chroniques de Riddick. Donc, c'est assez éclectique, un petit peu comme brochette de gens. Mais bien sûr, c'est produit, je l'ai dit plus tôt, par Tripp Vinson, le fameux réalisateur de l'exorcisme d'Emily Rose, et Tara Farney, qui a produit, elle, Red Rose. Donc, Le prochain film, d'après moi, dont on devrait entendre parler, parce qu'on en dit, il est sorti en mars. Il va sortir en mars, c'est-à-dire en Angleterre. Et il semble déjà avoir une espèce d'engouement, dans le sens qu'on attend une suite de tout ça. Ça semble marquer les esprits, un peu comme les différents grands classiques d'horreur, là, Alien, It, etc.
On reste dans ce créneau. Là.
Ben, je m'attends, on est dans ce qui est accessible. Moi, je dois avouer que vous me connaissez un peu passionné pour l'horreur. J'ai hâte de voir comment les choses vont se transformer parce qu'on en a vu plusieurs, des films de possession, revues à différentes sauces aussi. J'en avais critiqué un en 2018 là, où c'est un exercice qui n'a pas lieu vraiment et donc on ramène le corps à la morgue et finalement la possession se continue
et
l'entité cherche un autre. En tout cas, écoutez, est-ce que c'est simplement une espèce de feu de paille ou est-ce que ça nous amènera à quelque chose qui transcendra l'horreur en 2019? C'est à voir.
C'est ce qu'on verra. Merci, André-Jean. De mon côté, je vais vous parler un peu de Luc Besson, le réalisateur, scénariste, producteur qu'on connaît principalement pour les films Le Grand Bleu, Le Cinquième Élément, Nikita et plus récemment même le film Valériane et la Cité des Mille Planètes. On se souvient qu'il avait été accusé par une comédienne de l'avoir agressé sexuellement. Eh bien, l'affaire ne donnera pas suite. C'est la décision du procureur de la République française. Il n'y aura donc aucune accusation, disons, publique ou action publique pour poursuivre Luc Besson. Les investigations n'auraient pas permis, selon eux, de caractériser l'infraction dénoncée. Luc Besson avait évidemment nié toute l'affaire dès le début. Est-ce qu'il y aura d'autres accusations ou d'autres plaintes à son endroit? Ben, le futur le dira. Et sinon, sous un ton plus léger, je veux parler un peu de Jean Dujardin, à qui on a fait un hommage assez important lors du Carnaval de Nice il y a quelques jours. Un hommage à Dujardin, mais surtout à son personnage de Brise de Nice, hein? Au Carnaval de Nice. Le char allégorique, il y avait un char allégorique qui portait une marionnette géante à l'effigie de Brise de Nice, avec le bras là, qui fait le qui casse. Là. Et tout ça entouré de personnes portant ces couleurs, donc le jaune et le noir. Voilà, donc il n'y a pas que des gilets jaunes en France, il y a aussi des gilets de Brise de Nice. Alors voilà, c'est tout pour les nouvelles. Voici votre Cinébrunch. André-Jean, tu es allé voir pour nous cette semaine le film
Arctic, version. Bien sûr, je suis allé voir. Oui, il y avait cette petite, ce petit écartade de température en deçà de moins 20.
Ça fait deux semaines en ligne que tu vas voir des films de froid, là.
Oui, mais je suis un gars comme ça. J'aime l'hiver. Les gens ont tendance à l'oublier. D'habitude, je suis un peu plus affecté par le manque de soleil, mais en même temps, il faisait froid, mais on avait des beaux éclaircissements de soleil, donc j'étais en paix. Ce qu'on peut pas dire, en fait, je peux pas attribuer cette même paix d'esprit au personnage de mon film. En fait, vous allez voir où je veux en venir. Arctic est paru donc à la Maison du cinéma depuis le 22 février. Il s'agit d'un drame de suspense islandais, s'il vous plaît, réalisé par Joey Pena. Donc, un Américain qui est réalisateur, bien sûr, connu pour son court-métrage « Turning Point ». En réalité, il s'agit d'un musicien qui réalise des films à l'occasion et qui commence depuis « Turning Point ». Là, voyez-vous, c'est un court-métrage qui a eu lieu en 2016. C'est sa première production. On ne connaît pas grand-chose du bonhomme, mais ça semble être très intéressant. Il y avait un engouement, d'ailleurs, autour de « Turning Point ».
C'était un point tournant dans sa carrière.
On peut dire que c'est effectivement belle ouverture là, de ce côté-là. un seul acteur, ou du moins, c'est pas tout à fait vrai, mais je vendrai pas de punch. En fait, tout tient sur les épaules de M. Mads Mikkelsen. Je dois avouer que c'est un film qui m'a particulièrement troublé. Je vous invite tout de suite à écouter avec nous la bande-annonce.
Do you understand English? Try to stay awake. Come. We'll take a bite away.
Donc, vous venez d'entendre avec nous la bande-annonce du film Arctique qui est paru donc depuis le 22 février à la Maison du cinéma. Je vous envoie la petite description du synopsis comme ça. Un homme coincé quelque part dans le cercle polaire arctique attend ses secours. Lorsque l'hélicoptère qui le trouve s'écrase, le pilote est tué et le passager gravement blessé. Il doit ensuite décider de rester dans la sécurité relative de son camp ou de se lancer dans un trek meurtrier pour le salut potentiel. Son salut potentiel ou leur salut potentiel. Écoutez, c'est un film qui m'a profondément perturbé. Comme vous avez pu vous en rendre compte par la bande-annonce, c'est pas un film où ça placote beaucoup.
Non, il y a plus de bruit d'hélicoptère qu'autre chose.
Le setting est là. On est dans un homme qui est lui-même en état de survie, qui se retrouve à vivre un... L'élément déclencheur, en fait, c'est que les secours qu'il retrouve crachent littéralement dans une tempête. Et ça finalement, là où on s'attendait à ce qu'il y ait un relief un peu puis que le film prenne une autre tournure, ça fait juste empirer le bordel. C'est assez lourd comme situation, je dois avouer. Très bon film de survie à mon point de vue. C'est sûr qu'il faut s'attendre à ça, le setting étant ce qu'il est. Pas beaucoup de paroles. Une photographie, par contre, à couper le souffle, OK? Si vous êtes des amoureux de la nature, vous allez avoir à vous rincer l'œil. On est pratiquement dans un documentaire. Les images sont d'une qualité phénoménale. Défi quand même de taille pour le réalisateur qui arrive tout de même à captiver les cinéphiles. Il y a quand même, à mon point de vue, j'ai perçu quelques longueurs parce que, à un moment donné, il n'y a pas de discussion, il n'y a rien qui relance
la contemplation,
etc. C'est l'acharnement d'un homme qui veut à tout prix s'en sortir, mais on ne sait pas pourquoi. En fait, parce qu'il ne peut pas l'expliquer. On est seul, puis on devrait rentrer dans sa tête. C'est pour ça que je lève mon chapeau à Mads Mikkelsen, l'acteur, selon moi, qui fait une job absolument phénoménale. Il reste que les longueurs, à la sortie, je me disais « Ah ouais, c'est un peu long », mais en même temps, j'étais un peu mal. Je me sentais mal à la sortie d'un film, de ce film-là, et ça fait très longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Mm-hmm. Je pense que donc les longueurs étaient vraiment nécessaires, ou du moins intentionnelles pour le réalisateur, en fait, pour qu'on puisse vivre l'isolement et qu'on se pose les mêmes questions que notre protagoniste allait vivre, en fait. Comme je le dis, je ne reviendrai pas sur le principe. C'est lui qui tient le tout. Son jeu d'acteur est absolument phénoménal. C'est un bonhomme que je ne connais pas beaucoup. J'ai essayé de me renseigner un peu sur l'acteur. Et l'anglais n'étant pas sa langue natale, disons qu'on ne l'a pas vu dans beaucoup, beaucoup de films, mais... c'est quelqu'un qui gagne à suivre. Si jamais vous voyez Mads Mikkelsen,
c'est un acteur intéressant.
C'est à suivre, en fait. Je le dis quand même, c'est à regarder pour ce que c'est-à-dire un film de survie. J'ai joué le jeu personnellement et comme je vous dis, je suis sorti avec un profond mal-être. J'ai pas eu le choix de me poser les questions. Qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que j'aurais eu les mêmes choix que lui? Est-ce que j'aurais eu la force physique ou mentale même? Parce qu'on pense que ça s'alourdit pas seulement une fois. Débandade. Il n'y a pratiquement rien pour s'en sortir, le gars. C'est fou. En tout cas, ma note est quand même 9 sur 10 parce que je trouve que c'est merveilleusement réalisé et... malgré les quelques longueurs qui vont peut-être fatiguer certaines personnes, là, j'entendais des soupirs derrière. Allez-y, voir.
Non, mais si vous
êtes... Oui, il y a des gens d'un certain âge qui... excusez-moi, mais j'ai un certain âge, j'ai donc le droit de le dire. C'est des gens qui savaient peut-être pas à quoi s'attendre en allant là.
Quand même 9 sur 10, c'est très bien. Film de survie, c'est pas simple de réussir un film de survie.
Mais surtout pas avec un seul acteur dans le Nord.
C'est dur. On se souvient d'un homme avec les loups.
Je dirais qu'effectivement, un des trois acteurs présents, c'est effectivement un ours polaire. Donc, ça casse le trip un peu. Je veux dire, ça n'est pas beaucoup d'expressions. On peut personnifier un peu l'ours polaire, mais disons ça amène un profond malaise par rapport à tous les défis que l'individu mentalement doit surpasser, en fait. Puis, c'est ça, je ne vous vends pas plus le punch.
Non, mais ça m'intéresse, je vais peut-être aller voir ce film-là.
C'est très lourd. Je suis vraiment sorti mal. Au-delà des longueurs qui m'ont un peu fatigué, parce que je le regardais puis j'avais quand même mon esprit critique qui roulait tout le temps. C'est merveilleusement fait, en fait.
C'est merveilleux. Moi qui adore la souffrance. Bon, superbe. Merci beaucoup, André-Jean.
Plaisir. We'll be right back.
Mélina, tu as été voir le film Paddleton, ou plutôt, tu as vu le film parce que tu n'étais pas au cinéma du tout, là.
Non, c'est un film Netflix que j'ai regardé du confort de ma propre maison. Mmh. C'est sorti le 22 février dernier. C'est réalisé par Alex Lehmann et c'est un film qu'il a co-écrit avec Marc Duplass, qui joue un des rôles principaux. C'est un petit film assez minimaliste, ça dure 1 heure et demie, pas plus. Ça met en vedette donc Marc Duplass et Ray Romano, qui est vous savez, vous vous souvenez de L'Art de glace?
Oui.
C'est lui qui faisait la voix du mammouth, en fait.
Ah bon?
Ah bon, donc voilà. Okay. Le film, le résumé, il a fait autre chose aussi, en fait. Il a fait plusieurs trucs du monde.
Non, mais on voit que ça l'a amené vers la réalisation de ce film-là. Voilà.
Ben, en fait, c'est lui qui est acteur, c'est pas lui qui réalise.
Oui, c'est ça qui est drôle.
Oui, donc, le résumé du film, en fait. Une amitié improbable entre deux voisins marginaux se noue. Lorsque Michael se voit diagnostiquer un cancer en phase terminale, il demande à son voisin Andy de l'accompagner alors qu'il met fin à sa vie avant d'être emporté par la maladie. Hmm. On va aller écouter la bande-annonce.
J'ai compris. Écoutez, je vais vous proposer un truc. Je vais faire une affirmation, et si mon affirmation est bonne, eh bien, vous n'aurez pas à me corriger. Est-ce qu'à votre avis, la maladie de Michael est incurable?
Mais ça, c'est une question. T'avais dit que oui, il a fermé quelque chose et qu'elle devait savoir.
Alors, va pour l'affirmation. La maladie de Michael est incurable.
Ils ont une sorte de protocole et ils peuvent te donner des cachets. Mais j'ai pas envie de faire ça tout seul. J'aimerais bien que tu sois là.
Au pire, il se passe quoi, on tombe en panne d'essence?
Au pire, il se passe qu'on tombe en panne ici, dans ce trou paumé. On devra boire notre urine pour survivre.
Tu peux m'expliquer comment tu passes de la panne d'essence à l'obligation de boire son urine?
Est-ce qu'on est dans une comédie noire?
Oui, exactement. Okay. C'est exactement ça, le genre. Donc, c'est un petit film qui a de l'air de rien, qui m'a quand même bien surpris. Les thèmes abordés, ben, c'est la mortalité, la maladie, mais aussi l'amitié. Ça peut avoir l'air lourd un peu raconté comme ça, mais c'est pas un film qui est lourd en fait. C'est ça qui est bien dans ce film-là, c'est que c'est pas un film lourd. On aborde des thèmes sensibles, on n'a pas peur de rentrer dans l'émotion, mais avec un côté un peu drôle, surtout parce qu'on a deux personnages un peu marginaux, donc c'est ça qui vient amener le côté comique. Et donc c'est ça, souvent leur réaction face à la lourdeur de la maladie, de la mortalité, ça rend ça un peu plus léger. Donc c'est vraiment une belle réussite pour ça. Ça prend un petit peu de temps avant que ça parte, mais sinon c'est très bien, c'est drôle, les acteurs sont bons, c'est touchant, c'est profond, c'est pas trop lourd. Donc belle réussite, beau petit film à écouter, et c'est pas un film qui va complètement vous jeter à terre. C'est pas un film coup de poing, même si on aborde des thèmes qui sont quand même un peu plus lourds.
Hmm. Merci beaucoup, Mélina.
Merci.
Et tu donnes combien?
Oui, c'est ça le thème.
Oui, la note. J'y donne un 8 sur 10.
Oh yeah.
8 sur 10. Merveilleux. Merci, Mélina.
Merci.
Et de mon côté, sans plus de flafla, j'ai été voir pour vous le film Capharnaüm, un film qui est quand même au cinéma depuis un certain temps, film qui avait, on se le rappelle, gagné le prix du jury du Festival de Cannes, oui, en 2018. Le film s'est éternisé un peu au cinéma. Pour quelle raison? Sans doute parce que c'est un chef-d'œuvre. Voici ma critique du film. D'abord, disons que c'est une collaboration Liban-France-États-Unis présentée en arabe, sous-titrée en français. C'est un drame réalisé et co-scénarisé par la Libanaise Nadine Labaki, qui nous avait donné Caramel en 2007, un film quand même assez troublant. Et le film est maintenant où va... Et maintenant, on va où? En 2012. Le film met en vedette Zayn Al-Rafei dans le rôle de Zayn, alors oui, le même nom, le petit garçon qu'on suit tout au long du film. Aussi, Yordanos Chifera dans le rôle de Rahil, une Éthiopienne, et Qatar Al-Haddad, désolé pour mon arabe, dans le rôle de Souad. Donc tout le monde qu'on connaît, tout du monde qu'on connaît pas, mais qu'on a envie de connaître honnêtement après avoir vu le film Capharnaüm. Voici la bande-annonce.
زين الحاج شرف بكل القايد خليها
عارف ايش انت هون؟
اي نعم
ليه؟
بدي اشتكى له
It doesn't matter.
Donc, évidemment, vous n'avez rien compris. Non. C'est tout à fait normal. Le film était en arabe.
Et voilà.
Voilà, donc, l'histoire du film Capharnaüm, bien, c'est l'histoire de Zayn, un garçon de 12 ans élevé dans la pauvreté et la misère. L'histoire raconte, en fait, sous forme de flashback, pendant le procès des parents de Zayn, comment l'enfant est arrivé à commettre un acte criminel. On le suit alors dans tout ce qu'il est, ses souffrances, sa course pour la survie et surtout pour survivre à une folie du monde qui l'entoure. On découvre un garçon protecteur avec un grand amour pour sa sœur Sahar et plus mature et mieux organisé que ses parents même. Un jour que sa sœur Sahar est promise en mariage à un adulte, il fait tout pour la protéger et empêcher ses parents de lui enlever sa sœur. Sans succès, il décide de fuir la résidence familiale. Intrigué par un vieillard en costume de super-héros, il rencontre une femme éthiopienne qui travaille dans un parc d'amusement. On apprend à connaître à ce moment-là Rahir, une mère éthiopienne, et son bébé Jonas, chez qui va habiter Zayn pendant un certain temps. Évidemment, les problèmes vont continuer d'apparaître dans sa vie. Le film Capharnaüm est une incursion profonde dans les bidonvilles de Beyrouth au Liban. On plonge dans la misère et la pauvreté, la dénutrition, les sans-papiers, les réfugiés, même le trafic humain. C'est un monde où les enfants travaillent, volent, mendient pour se nourrir et pour survivre. C'est extrêmement réaliste et dur en même temps à regarder, mais en même temps, ça se regarde aussi bien aussi parce que c'est vu par les yeux d'un enfant. C'est un film absolument magnifique par sa forme, mais horrible parce qu'il nous fait découvrir. C'est un film très immersif. Quand on regarde Capharnaüm, on oublie le monde réel parce qu'on est complètement dans le film, dans des profondeurs troubles et dans la misère que vivent les personnages de ce film-là. C'est vraiment un film sublime. Le film nous met face à une réalité très différente de ce qu'on est habitué de voir et c'est dérangeant, mais en même temps, comme on vit à travers le regard du petit garçon, ben, on le vit naïvement et ça passe mieux. Pas de fla-fla dans le film, c'est un bon 2h15 à peu près, mais ça passe très vite, presque aucun temps mort. Les acteurs sont extraordinaires, on est dans un réalisme digne des frères Dardenne et vraiment tout le monde joue super bien. La musique, lorsqu'elle est utilisée, colle très bien aux émotions aussi. Une photographie généralement sobre, mais tout à fait appropriée. C'est un film qui frappe fort. Pas étonnant que le film Capharnaüm ait donc reçu le prix du jury au Festival de Cannes l'année passée. Donc, je donne 9,5 sur 10 au film Capharnaüm. C'est sans doute ma meilleure note ou égale à ma meilleure note de 2019. Et je ne vous dirais pas que c'est un feel-good movie.
Hein? Non, mais les sujets sont... c'est ça, c'est lourd. Mais moi, ce qui m'intrigue, est-ce qu'on a versé une larme, Jim? Est-ce que tu es ce genre d'individu qui se laisse parfois toucher par...
Oui, ça passe assez proche, je te dirais, à certains moments. Le film, disons... Il y a suffisamment d'action dans le film pour que rapidement
on passe à autre
chose. Ça aide, okay. Mais certainement, c'est un film assez troublant, assez coup de poing. Donc, je recommande. Coup de poing, qui est un terme surutilisé dans les critiques cinématographiques, j'essaie de moins l'utiliser, mais disons que c'est un film percutant. Percutant, mais beau à voir en même temps. Donc, c'est bien. C'est pas aussi trash qu'on a souvent dans certains films, plus drames de guerre, des choses comme ça, qui se passent aussi en Europe ou de l'Est ou en, disons, au Moyen-Orient. Mais dans ce cas-ci, on le voit d'une façon nouvelle, avec toute la beauté qui se cache dans la laideur et dans le chaos.
C'est intéressant parce que c'est pas je veux dire, on n'a pas beaucoup de productions partiellement ou totalement libanines qui viennent
non,
ici.
Non, il y en a peu, effectivement.
Je trouve ça intéressant parce qu'on est confronté à une autre histoire.
Les Libanais sont très, très bons pour la réalisation de films. Moi, je ne me souviens pas d'avoir vu un film libanais qui n'était pas bon. Cela dit, pour avoir vu du coin de l'œil des séries télé libanaises, c'est tout le contraire. Donc, mais oui, dans les productions qui s'exportent du Liban sont de très, très haut calibre.
Penses-tu que c'est un film qu'on pourra peut-être voir dans le cadre du Festival du cinéma du monde de Sherbrooke?
Ça m'étonnerait même pas, tout à fait honnêtement. On verra, mais à mon avis, c'est exactement le genre de film qui serait présenté au Festival au FCMS. Donc, à suivre de ce côté-là.
Merci beaucoup.
Mais de rien. Mélina, c'est le moment de nous parler des Oscars.
Oui, donc la cérémonie de dimanche dernier, qui est assez particulière parce qu'il n'y avait pas d'animateur, en fait.
Personne ne voulait.
Oui, ben c'est ça, en fait. C'est censé être Kevin Hart, mais il y a eu une controverse quand des vieux tweets avec des blagues homophobes sont remontés à la surface. Donc, deux jours après avoir annoncé que ce serait lui qui animerait, on a annoncé que ce serait pas lui qui animerait la cérémonie. En fait, ça faisait 30 ans qu'il n'y avait pas eu de cérémonie, qui n'avait pas d'animateur. Donc, la dernière, c'est la 61e. Là, on était cette fois-ci à la 91e. Donc, les Academy Awards qui récompensent le cinéma pour l'année 2018, donc l'année qui vient de se terminer. Contrairement au Golden Globe, c'est une récompense qui est décernée par les membres de l'industrie cinématographique, donc reconnus par leur père et par leur mère.
C'est une blague de mon genre, ça.
Oui.
J'ai pas réagi, là, mais je viens de réaliser. C'est mon genre d'humour.
T'as bien enchaîné. Donc, qui a gagné, hein? Parce que c'est ça la question que vous voulez savoir, en fait. Mais moi, je suis très contente, en fait, parce que je l'avais prédit. Je vais juste glisser ça de même.
C'est pour ça que vous voulez faire un blog sur les Oscars.
Ben, c'est ça,
en fait,
c'était, c'était juste pour montrer que j'avais un œil. Ouais. En fait, j'en ai deux, mais bon.
Oui.
L'Oscar du meilleur film a été remporté par le film Green Book, donc le livre de Green.
Ben voilà. Voilà. Oui, c'est le film
dont j'avais parlé. J'avais dit, c'est ma prédiction pour les Oscars, donc il a gagné. Ça a fait un peu de polémique, mais ça fait tout le temps de la polémique, les Oscars. En même temps, on s'entend, les gens aiment se critiquer les choix. On peut pas faire plaisir à tout le monde, donc. Le film, il a gagné deux autres prix, à part le film, l'Oscar du meilleur film. Il a gagné le meilleur scénario original et le meilleur acteur dans un rôle de soutien pour Mahershala Ali, qui jouait le rôle de Don Cherry, le pianiste, qui était excellent. Ensuite, André-Jean, le film que tu as vu pour nous, Bohemian Rhapsody, a été le grand gagnant de la soirée puisqu'il a gagné quatre prix. Donc, c'est le film qui en a gagné le plus. Donc, Rami Malek qui a gagné meilleur acteur.
Ben oui,
qui jouait Monsieur Mercury.
J'aurais dû faire mon pool, moi aussi, c'est ça, je me rends compte.
Ah, ben oui. On devrait faire ça à Ciné-Pro.
La prochaine fois, on fait ça.
Ils ont gagné aussi meilleur montage de son et meilleur mixage de son. Donc, voilà pour Bohemian Rhapsody. Sinon, Roman, un film que je vous avais parlé, un film que Jim n'avait pas du tout réussi à embarquer dedans.
Non, c'était long et plate, selon moi.
Oui. C'est ça, mais il a quand même gagné trois prix. Donc, meilleur réalisateur, meilleure photographie et meilleur film en langue étrangère pour Alfonso Cuarón, qui a fait une petite partie de ses discours en espagnol. Donc, moi, c'était un petit clin d'œil que je trouvais cute. Et sinon, ça c'est intéressant quand même, le score de la meilleure actrice qui a été remporté par Olivia Colman, qui jouait la reine Anne d'Angleterre dans le film La Favorite. C'est un film qu'on n'a pas parlé à Cinébrunch. Il s'est un peu glissé comme ça. Des fois, il y a trop de films qui sortent.
Oui, c'est ça qui arrive.
Donc, mais c'était un moment assez drôle parce qu'elle s'est presque excusée à l'actrice Glenn Close d'avoir gagné. Parce que Glenn Close en était à sa 7e nomination, mais n'a jamais gagné d'Oscar.
C'est quand même triste.
C'est quand même une très grande actrice. Donc, dans son discours, elle était comme « Vous êtes mon idole, je vous admire depuis tout le temps ». Et on sentait que... Bon, elle se sentait presque mal. En même temps, elle était contente, évidemment, d'avoir gagné. Mais donc, le film La Favorite fait partie, en fait, des grands perdants de la soirée. Parce qu'ils ont gagné seulement un Oscar alors qu'ils avaient 10 nominations. Et c'est suivi par le film Vice, qui avait 8 nominations et qui a gagné seulement un Oscar pour meilleur maquillage et coiffure.
Ça, c'est un peu le prix du reste. Là.
Oui, mais en même temps, c'était
très bon.
Écoute,
il y avait des films d'époque là, avec beaucoup plus de maquillage et tout ça. Oui, effectivement, ils ressemblaient, mais quand même, en tout cas.
Donc, c'était ça, le prix de consolation. Résumé pour les Oscars, la 91e cérémonie.
Merci beaucoup, Mélina. De retour à Cinébrunch et André-Jean, c'est le moment où tu nous parles de ton troisième et dernier blog.
Oui, sur le cinéma américain.
Conclusion?
Ben, oui, parce que là, après ça, je donne une espèce de lignée puis, que tout le monde peut voir aujourd'hui parce qu'on a passé les années 2000, bien sûr. On est dans cette époque folle. Donc, effectivement... aujourd'hui, petite récapitulation de mon bloc 2 de la dernière fois. On survole rapidement les années 50, hein, le moment où les studios s'envolent, les années 60-70, le déclin d'Hollywood, la contestation du nouvel Hollywood. Et bien sûr, on termine avec la fin des années 70 aux années 90, l'ère Spielberg ou le temps des blockbusters. Donc, j'enchaîne tout de suite avec, bien sûr, notre petit résumé du bloc 2 qui s'est s'intitulait L'âge d'or hollywoodien. Donc, on se rappellera qu'à cette période, grâce au cinéma parlant, en fait, l'industrie passe sans encombre les années de la Grande Dépression. Là, je parle de 29 à 45. En 1931, on a l'apparition des premiers syndicats d'acteurs et de scénaristes, et c'est la fin du système de liaison entre les acteurs et les studios par l'apparition des agents, bien sûr, des acteurs. Une époque de grande restructuration et de fusion qui amène les prêteurs à avoir de plus en plus de place dans les conseils d'administration des cinq majors, des cinq grands studios qui dominent d'ailleurs dans des productions à grand déploiement, pardon. Donc, on parle de Fox, de Paramount, de Metro-Goldwyn-Mayer, de Radio Keith Orpheum et Warner Bros., bien sûr. Époque de prospérité, bien sûr, économique et aussi de développement technique pour le cinéma. Hein, c'est l'apparition du Technicolor, les studios pour les prises de son sont maintenant isolés, etc. Donc, les coûts sont faramineux. Au niveau des productions, le cinéma des années 30 s'intéresse aux causes sociales et aux excès du capitalisme sauvage, ce qui mène à des accusations d'activité anti-américaine par une commission parlementaire en 1947, qui donc donnera l'apparition de la fameuse liste noire d'Hollywood. Ça se termine bien sûr par le démantèlement des systèmes de distribution et de production, c'est-à-dire que maintenant les studios ne pourront plus posséder les salles de projection et vice-versa. Nous passons déjà donc à cette merveilleuse époque des années 50 où les studios prennent leur envol. J'entends par là que le cinéma américain des années 50 est caractérisé par le triomphe des grandes productions hollywoodiennes. L'arrivée du cinémascope favorise le succès des productions coûteuses, des films aux couleurs somptueuses, aux mises en scène spectaculaires projetées sur des écrans panoramiques. Toutefois, sur le plan financier, cette stratégie des gros studios s'avère peu rentable en raison du coût élevé des investissements et de la maintenance et bien sûr du personnel. Pour la première fois, donc dans toute l'histoire du cinéma depuis, on se rappelle, fin 1800, on a donc une diminution du nombre des productions.
Parce qu'avant, on voyait justement tout ça chuter, mais ils continuaient d'en faire autant. À un moment donné, ils sont réveillés, là. C'est ça que je comprends.
Et là, c'est qu'il y avait toujours un moyen, voyez-vous, même si on en parlait dans l'âge d'or, les coûts de production, parce que les moyens technologiques augmentaient, etc., augmentaient. Il y avait toujours plus de gens qui étaient prêts à prêter, bizarrement, mais ça leur permettait de s'immiscer dans les conseils d'administration des studios de production, parce qu'on avait compris que ça produisait une manne phénoménale d'argent, bien sûr, les revenus étaient incroyables. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs. Même aujourd'hui, on est passé à un autre niveau, selon moi. L'exportation et la diffusion du cinéma américain à l'international est soutenue par le département d'État et la Motion Picture Export Association, qui apporte une solution à ces difficultés et permet, en fait, les difficultés, bien sûr, de production, c'est-à-dire dues aux coûts élevés et aux moindres rendements, parce qu'on faut toujours payer plus de plus d'entretien de salle, plus de personnel, etc. Donc, l'État américain s'en mêle, ainsi que la Motion Picture Export Association, et ça permet, on va permettre donc aux producteurs, aux studios d'exporter le produit à l'étranger. Donc, qu'est-ce qu'on exporte maintenant? On exporte à l'étranger le rêve américain, bien sûr, le modèle de l'American Way of Life, s'opposant, bien sûr, à la propagande de l'idéologie communiste. Hein? On se rappelle qu'on est en après-guerre.
En pleine guerre froide encore.
Oui, et c'est ça, là. C'est ça qui arrive. Sur ce, donc, si le grand spectacle, le western, les comédies musicales triomphent, le film noir vit son crépuscule et la science-fiction met en scène des invasions extraterrestres qui semblent refléter des angoisses liées à la guerre froide, justement, et au fantasme de l'apocalypse nucléaire. On en a un petit exemple, si vous voulez bien avec moi écouutez la bande-annonce qui suit.
No one would have believed in the early years of the 21st century. This world was being watched keenly and closely by intelligences far greater than our own. That as men busied themselves about their various concerns, we were being scrutinized and studied. Perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the creatures that swarm and multiply in a drop of water. With infinite complacency, men went to and fro over this globe about their little affairs. Serene in their assurance of our empire over this world.
Et bien, certains, pardonnez-moi bien sûr pour la bande-annonce en anglais, mais certains auront reconnu la guerre des mondes, bien sûr, de 1953, où là, effectivement, on était dans une espèce de manifestation d'après-guerre froide, de crainte. Tout ce qui était film de science-fiction ou autre ne servait qu'à manifester des craintes. Matérialisées avec des mises en scène, justement, d'extraterrestres, etc. La perte de contrôle, les potentielles guerres nucléaires, etc. Finalement, c'était pas la période super intéressante. On était plutôt dans une période en 1950 la propagande ou d'une propagande un peu masquée. Hein. C'est-à-dire qu'on est en train de dire aux gens à travers le monde comment vivre, comment être heureux. Hein. Parce que ça passe bien sûr par la société de consommation.
Et le rêve américain.
Ben, c'est voilà.
Voilà.
La montée en puissance de l'Actor Studio, dont Marlon Brando demeure une figure emblématique, bien sûr, au-delà du fait là, que les associations entre les studios et les acteurs ne se faisaient pas, certains acteurs, dont Marlon Brando, pouvaient quand même décider de faire seulement affaire avec un studio. Le tout entraîne le renouvellement du jeu des acteurs qui composent avec des personnages tourmentés à la forte charge physique et émotionnelle. Et là, certains se rappelleront bien sûr de James Dean, hein, cette espèce de mauvais garçon un peu, mais qui est dans le fond un bon garçon, mais déchiré, hein, qui est beau bonhomme bien sûr, hein, l'incarnation de l'homme sauvage qui, après la guerre... dans le fond, on veut juste le bien, même si quelque part, il ne peut pas s'empêcher d'être un petit peu criminel dans sa façon d'agir. Cela n'empêche pas non plus le maintien des clichés glamour hollywoodiens. Alors, c'est à voir comment on décrit l'homme et comment on décrit maintenant la femme objet. Hein? Marilyn Monroe apparaît là, Jane Mansfield. Donc, on est bien avec le principe de modèle de vie américain donc rêve américain dans tout ce que ça implique. Les beaux bonhommes qui sont un peu des mauvais garçons et les jolies madames qui sont petit peu des objets, hein, on va se le dire. C'est parce que c'est important de penser qu'à cette époque-là, on trace des lignes qui vont être exportées à l'international, ce qui n'était pas le cas avant.
Qui ont un impact mondial.
Ça n'a pas le choix, ça finit par miner, moi, à mon point de vue, ça mine beaucoup plus large que ce que... Tu sais, je veux dire, on verra jusqu'où ça nous amène. En fait, le développement de la télévision et la migration des cadres vers les banlieues, les cadres, bien sûr, des studios de production, entraînent le déclin des salles de centre-ville. Et un dernier phénomène typique de cette période est le développement rapide du drive-in ou cinéma en plein air. S'adressant plutôt, lui, à un public jeune, il suit les centres d'intérêt des adolescents. Films sur le rock'n'roll, les teen pics, les films d'horreur à petit budget, films de série B, bien sûr, et préfigure, bien sûr, les temps à venir. On est rendu, après les années 50, bien sûr, à 1960-1970, déclin d'Hollywood, contestation du Nouvelle Hollywood, bien sûr. Contestation et Nouvelle Hollywood, par exemple. Durant les années 60, donc, le cinéma américain n'a pas connu un énorme succès. Cependant, cette période a été marquée par la présence sur grand écran de films d'épouvante tels Psychose. Et pour ce type de film, l'arrivée de la couleur marqua un vrai départ. Bien sûr, pour tout ce qui est film d'horreur, hein, ça jouait beaucoup d'avoir tout ça en couleur. Les années 60-70 marquent aussi le début d'une réaction particulière du cinéma américain, face aux politiques intérieures, mais aussi internationales. La production s'en est d'ailleurs trouvée transformée, bouleversée, je dirais même, par des contestataires du début des années 60. Et même jusqu'à la fin des années 60, je dirais. On traite maintenant de la société américaine contemporaine. Hein. Les sujets ont changé. Là, on n'est plus du tout dans les craintes ou la propagande anti-américaine, anti-communiste plutôt, excusez-moi. Plusieurs longs métrages contestent l'engagement des Américains dans la guerre civile du Vietnam. Des films à petit budget lancent des acteurs jusque-là inconnus comme Robert De Niro, Al Pacino ou Jack Nicholson. Et ils mettent en scène de nouveaux thèmes comme la violence, le sexe et la politique.
Oui.
Donc, on revient à vous, petit peuple ou population qui vivaient dans notre mode de vie ou dans notre way of life américain, comme le diraient si bien les gens des années 50.
Ben, disait tout le temps ça.
Qu'est-ce qui vous intéresse maintenant? On focus sur vous. Mais là, on est dans les adultes, hein? Violence, sexe et politique. Ce qui m'amène à démarrer mon petit jeu du public cette semaine. Oh. Donc, on va vous parler du petit jeu du public. Après l'émission, bien sûr, vous pourrez accéder à notre page, par l'intermédiaire de notre page Facebook, à une question. En fait, la question, je vous la dévoile maintenant. Et vous devrez, la première personne, bien sûr, qui me donnera, tous les règlements seront stipulés, comme la dernière fois, finalement, sur la page Facebook, sur le post que je mettrai en ligne. Donc, vous devez choisir deux des acteurs que je viens de nommer, hein, soit donc Robert De Niro, Al Pacino ou Jack Nicholson, et me nommer un film ayant lancé la carrière de ces 10 acteurs, finalement, dans la période dont je vous parle, là, du déclin d'Hollywood de 1960 à 1970. Et donc, bien sûr, première personne qui répondra correctement au tout. Bien sûr, qui répondra correctement au tout sur le post de notre page, bien sûr,
directement donc, sur notre page. Oui.
Et voilà, cette personne se méritera bien sûr un prix qui sera détaillé, bien sûr, ainsi que tous les règlements, toujours sur cette même page. Ce qui nous amène, bien sûr, à passer cette fois à la fin des années 70 jusqu'au début des années 90 où là on parle de l'apparition de l'ère Spielberg du fameux temps des blockbusters qui pourrait être en fait en ce qui me concerne c'est pas mal là dans le on est encore dans cette époque là à mon point de vue. C'est-à-dire qu'on dépasse les années 90, bien sûr. Oh, oui. Et bien sûr, mes co-animateurs, tenez-vous prêts. Oh, vous aurez votre petit jeu aussi dans cette zone-là. Ah, ouais, du plaisir pour tout le monde, bien sûr. Donc, je vous débute ça. En 1977, George Lucas élabore son projet d'épopée cinématographique Star Wars. Les années 70 voient également l'ascension de M. Steven Spielberg. C'est le début des super productions avec des effets spéciaux qui réalisent d'énormes recettes, grâce notamment à quoi, bien sûr, aux produits dérivés et à l'immense publicité auquel ont droit ces productions. Pendant les années 70 à 80, finalement, l'augmentation du nombre de films de science-fiction et de super-héros accompagne la diminution du nombre de westerns. Nombre de ces films à gros budget ont des suites, des produits dérivés et sont l'objet d'un marketing intensif. Vous voyez là où je vais vous emmener dans mes questions. Ou dans ma question, en fait. S'ils sont en partie modernes par leur sujet, hein, rencontre avec l'autre, apparition extraterrestre, intelligence artificielle, et non seulement par leur sujet, mais par leurs effets spéciaux, il s'agit essentiellement de super productions hollywoodiennes dont le traitement de l'histoire est assez classique, le récit linéaire se terminant la plupart du temps par un happy end et un montage transparent. Les producteurs visent davantage une catégorie ciblée de la société que le grand public dans son ensemble. Et c'est maintenant où mes co-animateurs vous êtes sollicités à ce petit jeu entre nous. Donc, votre question. Vous devez, donc, je vous rappelle, la période étant des années 65 à 95, vous devez me nommer le premier d'entre vous. Hein, vous devez
on n'a pas de buzzer,
d'abord.
Hein, c'est dommage.
Ben, vous devez choisir votre petit son particulier à chacun d'entre vous. Donc, je vous demande d'incarner le buzzer sans que ce soit trop irritant pour les auditeurs. Parfait.
Beep.
Ah, parfait. Je m'attendais à un bruit d'écureuil, mais on n'a pas eu, c'est merveilleux. Donc, comme je le disais, donc, vous devez la première personne d'entre vous qui, après avoir buzzé, bien sûr, pourra me nommer trois films à gros budget qui ont marqué la fin des qui ont marqué les années 65 à 95, se méritera, bien sûr, la victoire totale et la suprématie pour le reste de l'émission. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez y aller. Et si vous
Mais est-ce que c'est un film, après ça, on repose?
La première personne d'entre vous qui peut m'écrire trois films et me les dire, puis là, je te dis, prends de l'avance parce que Mélina est sur le dossier. Oh! Jim se lance.
Pourquoi attendre? Trois films à gros budget entre 1965 et 90, c'est ça?
Qui ont marqué l'époque, en fait.
Ah oui. Donc, c'est vrai, il y a une question de date là-dedans.
Ah, ben là, je veux dire...
Une question de date.
Voilà.
T'as pas dit entre 60 et 2000? Non,
65
c'est pas ça,
et 95.
Hein? Ah, 95,
non,
OK.
Non, c'est spécifique.
Bon, je vais essayer des choses. Alors, je vais essayer d'abord... 95, aïe, 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 aïe. Je vais essayer le film suivant.
C'est long.
E.T.
Oui, effectivement, E.T. Est accepté.
On a nommé Star Wars.
Oui, effectivement.
On peut le redire.
Est accepté.
Et j'ai envie de rester dans le Spielberg. Et je propose, tiens, qu'est-ce qui serait agréable? Ah ben, le parrain aussi, dans ces eaux-là, il me semble.
Non, malheureusement.
Non?
Non, malheureusement. Besoin de réplique à Mélina, contre toute attente.
Ben oui, c'est ça, j'aurais dû nommer quelque chose d'autre. Bon,
mais je sais pas, Indiana Jones?
Non, pas du tout. Oui, excuse-moi. Indiana Jones en est un.
T'as pas l'air convaincu, André-Jean, là,
non,
moi, c'est...
Non, en fait, c'est pas... Non, parce
bon,
que...
Ben,
oui, oui, de 95, ben oui, non, tout à fait. Indiana Jones en est un, oui, okay. Oui.
Indiana Jones, E.T.
Ah, ben là, oui,
on... Tu peux pas reprendre les films, quand même.
Non, là, faut que tu fasses l'effort de sortir d'autres films.
Ben oui, ben oui.
Oui.
The Shining?
Non, malheureusement. On peut penser à... là, je vais vous...
Ben là, droit de réplique à Jim, non?
Oui, mais en fait, là, oui, on serait rendu là.
Mais là, faut que tu dises des nouveaux films.
Je vais vous donner... Oui, mais c'est ça, là, vous devez me sortir des nouveaux films. Je vais vous donner des petits indices. Pensez Stanley Kubrick.
Oui, ben c'est ça. Mais de Shining, elle l'a dit, puis c'était pas bon.
Ridley Scott. Pensez Joe Dante. Pensez Robert Zemeckis. Pensez, ma foi, Coppola. Pensez Oliver Stone. Ah,
le parrain, tu l'as dit.
Bon, mais ça a l'air que c'est pas dans les bonnes années. Ça m'étonne, là, mais...
Moi, je pense que c'est plus début 2000.
Ah, ben non.
Non?
Ben non. Mais je pense pas. Mais OK, ben dans ce cas-là, est-ce que mes autres comptaient ou...
OK, on va faire ça parce que là, effectivement, les auditeurs vont se demander de quoi, qu'est-ce qu'on fait en studio. Et il te manquerait un film,
Jim. Ben, Jazz.
Non,
j'y avais pas pensé.
Effectivement, oui, Jazz, oui, effectivement.
Ben oui,
mais est-ce que c'était vraiment un des films à grande production? Si je vous dis, bon, regarde, je vais dire Jim gagnera la suprématie pour la fin de l'émission. 2001, l'Odyssée de l'espace,
ah ben
bien
oui,
sûr,
vrai,
Star Wars,
vrai,
Rencontre du troisième type, Superman, Flash Gordon, Alien, le huitième passager, Blade Runner, Les Gremlins,
oui,
Terminator,
Ah, y en a
Tron,
plein, dans le fond.
Predator, Terminator 2, Jurassic Park, t'sais,
ah,
tous ces films
oui,
qui ont amené, j'aurais dû être plus insistant sur le principe de qui avait qui avait beaucoup de sous-produits finalement, puis de marketing.
Oui, de produits dérivés. Ben, il y aurait eu Star Wars en premier.
Oh, oui, ça, c'était un incontournable. Tu l'avais bien eu, effectivement. Après ton E.T. l'extraterrestre, qui a été une franchise aussi, moi, je me rappelle de certaines boîtes à lunch, dont je n'ai pas été propriétaire, mais que j'aurais bien aimé. ben voilà. Donc, bravo, Jim. Hein,
ben, merci. Je n'ai pas de mérite. Bref.
Mais c'est parce que tu étais né dans ces années-là, contrairement à moi.
Ben, il faut dire que. Ouais, oh, et là, c'est une attaque directe.
Ça fait mal, ça.
C'est ça. Non, mais
tu sais qu'André-Jean aussi est né dans ces années-là. C'est ça qui est la beauté de la chose.
Oui, mais c'est ça. Mais c'est pas lui qui a gagné non plus.
C'est
hein.
Ça. Puis moi, je participais pas parce que, bien sûr, j'aurais gagné.
Tu aurais gagné à la main.
Bien sûr. Donc, c'est ça. Vous voyez, public en délire, on arrive à avoir du plaisir aussi. En studio, cela dit, j'enchaînerai. Bien sûr, donc bravo encore à Jim qui se mérite la suprématie pour la fin de l'émission.
Je pensais que c'était perpétuel pour les autres émissions aussi. Là.
Ah non,
ben
ça,
non, faut se calmer.
Ah bon,
okay.
Pour faire des jeux.
C'était juste pour aujourd'hui.
Faire des jeux.
Avoir su, j'aurais laissé Mélina gagner.
Et voilà, c'est si facile de le dire, hein, une fois qu'on a eu des indices. Donc, écoutez, qu'est-ce que je disais? J'en étais rendu, donc, on est toujours dans les années 70 hein, à 90. La guerre du Vietnam est restée un thème qui est un sujet à réflexion, en fait, privilégié par le cinéma américain durant toute cette époque-là. Il y a plusieurs... on se rappellera de L'échelle de Jacob aussi. Il y a eu plein de films qui étaient, sans être des grosses productions,
Good Morning Vietnam,
revenaient ouais, avec cette réflexion-là. D'autres films évoquant divers épisodes de la Seconde Guerre mondiale aussi marquent la décennie qui va suivre, hein, surtout 80-90, ce à quoi je faisais référence à l'instant. Un autre fait notoire des années 80 et qui va se prolonger dans les années 90 est la vogue du cinéma d'action, dont les héros, hein, justiciers expéditifs, francs-tireurs virils, bodybuildés ou bagarreurs vindicatifs,
Schwarzenegger et compagnie, là.
Préfigurés par Charles Bronson, Clint Eastwood. Ah ben pas tous, mais sont actuellement incarnés dans 80-90, hein, Schwarzenegger, Stallone, Chuck Norris, Jackie Chan, Steven Seagal, Bruce Willis et les autres Van Damme de ce monde.
Ouais.
On dénote l'influence en fait croissante du cinéma hongkongais, dont les réalisateurs viennent parfois tenter leur chance à Hollywood. En fait, c'est ça qui a fait qu'on est tombé avec un truc vraiment sur... c'est-à-dire on a touché un point d'intérêt, mais c'est venu d'Asie. Puis ça, je trouve que c'est intéressant.
Tous les films avec Stanley.
Ben, le combat, en fait. Bruce Lee, etc.
Bruce Lee, ouais.
Exactement. Où on va...
Non, pas Stanley.
Non, Stanley, c'est un autre. Ça,
c'est autre chose.
C'est un petit pub aussi dans l'Est. Mais c'est pas de publicité, bien sûr. Non, le principe, c'est que c'est une influence d'Asie qui fait qu'on touche des intérêts malgré l'exportation du monde. C'est-à-dire qu'on y va un peu dans les deux sens. Moi, je pense que c'est plus une espèce de one-way d'exportation de mode de vie. Mais il y a des producteurs hongkongais qui finissent par toucher une sensibilité dans le public mondial qui est, bon, ça nous prend un justicier qui est accessible, pas nécessairement le super-héros. On adore le super-héros, puis encore aujourd'hui, on peut le prouver, mais le petit justicier là, qui est un peu comme Jim à la fin de cette émission-là, qui gagne un concours et qui finalement sauvera Sherbrooke cette année, potentiellement.
Voilà. Non, c'est sûr.
Voilà. Donc, les trailers aussi, inspirés par la fascination que les psychopathes et les tueurs en série exercent sur le public, connaissent de brillantes réussites. Hein. On fait référence à Liaison fatale en 87, Le silence des agneaux en 91, Basic Instinct pardon, en 92 et Seven en 1995. Ça nous mènera bien sûr, enfin, à la tendance dans les productions cinématographiques pardon, qui sont faites depuis les années 90 se résume pas mal par le goût de la performance, les énormes moyens financiers et techniques, bien sûr, la numérisation des images, les records d'audience et les bandes musicales à succès. Ce qui nous amène, c'est ça, ce qui est décrit pas mal ce qu'on vit aujourd'hui avec ça, hein, lorsqu'on parle de méga-production, bien sûr.
Bon, ben c'est voilà. Est-ce que tu as fait le tour c'est de ton déjà?
Ben okay. C'est effectivement ce qui compléterait le bloc 3. Réfléchissez bien sûr sur l'impact qu'il y a eu. C'était ça mon objectif dans ce bloc-là, que les gens réfléchissent sur l'impact que l'exportation du cinéma américain, qui est devenu comme une espèce de façon de passer des messages. Mm-hmm. On se rappelle d'au tout début où on jouait tranquillement avec la propagande à l'interne des États-Unis. Quand on a commencé à exporter, on a exporté beaucoup plus que simplement petits... Voilà.
Ah oui. Plus que des effets spéciaux, disons.
Ça crée un rapprochement dans les peuples, je pense, mais ça potentiellement créer aussi d'autres choses.
Réfléchissons-y, comme tu dis.
Et voilà.
Merci beaucoup, André-Jean, c'était fort pertinent. Si vous voulez entendre ou réentendre ce bloc ou tous les autres qu'André-Jean a préparés pour nous, vous pouvez vous rendre sur notre site web cinebrunch.com et vous trouverez les autres émissions très bien identifiées avec un
petit logo.
Si je peux
me permettre, sur lequel aussi, toi, tu as écrit des articles concernant justement l'impact de la propagande ou du cinéma
le film de guerre.
Très intéressant comme article, vous irez voir ça.
Alors voilà, pour ceux que ça intéresse. Sinon, c'est tout pour Cinébrunch cette semaine. Merci à tous d'avoir été présents à l'émission et je vous dis à la semaine prochaine. Même brunch chaîne, même brunch heure. Donc, toujours à 11h le samedi en rediffusion, le mardi à la même heure ou sur notre site web cinébrunch.com. Venez nous faire un petit coucou sur Facebook ou participer au petit concours qu'André-Jean, dont André-Jean nous a parlé tout à l'heure. Oui, donc, ne manquez rien.
Ne pas oublier, bien sûr, qu'on est accessible en balade de diffusion sur notre site.
Absolument, donc c'est ça. Allez faire un petit tour si vous voulez entendre des critiques de films divers, vous trouverez.
Des films d'été aussi,
si vous avez envie de vous réchauffer un peu. Là, il y a une pléthore de critiques. Donc, on est rendu à quoi? 69 émissions. Donc, ça nous donne... On approche du 70e. Je vous dis pas quand, mais j'ai l'impression que la semaine prochaine...
Ça sent la fête.
Alors voilà, merci à tous d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine.
Merci,
au revoir. Bonne semaine.